Bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1 Québec, en espérant que vous ayez passé une belle journée. Côté température, on est gâté. Je crois que demain, ça devrait être un peu plus problématique. Là, on parle de pluie. Mais pour ce qui est de vendredi, samedi, dimanche à Québec, c'est que du soleil. Maximum autour de 21, 22, 23 degrés là, en ligne. Donc vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 degrés. Donc profitez-en, planifiez des trucs à l'extérieur. Ça va être la fin de semaine. Un peu comme la fin de semaine dernière qu'on a connue à Québec. Ce soir, ça va vous rappeler des souvenirs. On joue un peu avec la nostalgie dans Marceau Soir. Puis, je vais vous le dire, je travaille des fois un peu juste pour moi, mais quand je sais que ça va plaire aux auditeurs, je les invite quand même, ces gens-là. Mon invité de ce soir, j'en suis très fier, c'est Stephen Finn, qui a évolué chez les Nordiques de Québec pendant plusieurs années. Par la suite, il a évolué chez les Kings de Los Angeles. Puis, de mémoire, il a fait un autre club. Là, je ne me trompe pas, c'est dans le secteur de la Floride, il saura me le dire. Mais Stephen Finn est avec nous pour les 50 à 60 prochaines minutes. Monsieur Finn, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être là. Quand on vous parle des Nordiques, ça doit être à tous les jours qu'on vous parle des Nordiques quand on vous croise.
Oui, tout à fait. Et puis, pour moi, c'est toujours des excellents souvenirs. Et puis, ça me rend nostalgique, bien évidemment.
Vous avez commencé à jouer au hockey à quel âge? Est-ce que je peux tutoyer?
Oui, ouais, tout à fait.
Je t'ai impressionné, qu'est-ce que tu veux?
Donc, arrête ça, tu me fais vieillir.
Tu as commencé à jouer au hockey à quel âge, Steven?
Je commençais à patiner aux alentours de 5 ans, je te dirais.
OK.
Moi, j'ai une sœur qui est peut-être un an de plus que moi, puis j'ai mon grand frère Terry qui a 2 ans et 8 mois de plus que moi. Lui avait commencé à patiner, à jouer au hockey avant moi. Il était excellent. C'est lui qui m'a amené sur la patinoire la première fois et c'est lui qui m'a rendu compétitif parce qu'il fallait que je me force pour essayer de lui enlever la rondelle.
OK. Ah oui, mais est-ce que lui a eu une carrière aussi dans le hockey professionnel?
Non, écoute, mon frère, c'est un excellent joueur de hockey. Puis c'est drôle, petite anecdote, quand on était jeunes, dans les parties de famille, tout le monde parlait, son nom c'est Terry, tout le monde parlait de Terry, comment il était bon dans le hockey mineur, puis tout ça. Puis comme tout bon grand frère, à un moment donné, pour essayer de me soulager, il m'a dit, le frère, il dit, fais-toi-en pas, tu seras jamais aussi bon que moi, là, tu sais. Puis il a arrêté de jouer au hockey collégial, et puis c'est une anecdote là, qu'on échange encore aujourd'hui, puis qu'on rit beaucoup.
Hey boy, puis à un moment donné, est-ce qu'il a admis que tu étais rendu meilleur que lui?
Il l'a admis, ouais. Il n'a pas eu le choix.
Ton hockey junior majeur, c'était pour les voisins de Laval?
Oui, les voisins de Laval. Moi, j'ai été choyé dans le fond parce que je suis originaire de Laval et on sait qu'au hockey junior, c'est pas garanti que tu vas jouer pour ta ville natale. Et puis, j'ai eu la chance d'être repêché par les voisins de Laval et puis d'avoir été témoin des grands exploits d'un dénommé Mario Lemieux.
Oui, ça devait être. Est-ce qu'il était déjà exceptionnel dans le hockey junior majeur, là? Mais j'imagine que toi, tu as vu une différence quand tu l'as croisé dans la Ligue nationale où là, son talent était surdimensionné.
Oui, bien écoute, oui, moi je l'ai vu, je l'ai côtoyé pendant 2 ans à Laval. J'ai été témoin de plusieurs records qu'il a battus et on voyait que c'était un phénomène.
Ouais.
J'avais aucun doute dans mon esprit qu'il était pour jouer dans la Ligue nationale de hockey, être un excellent joueur. Mais j'aurais jamais pensé qu'il aurait été aussi dominant.
Ah, ça se voyait pas à ce point-là dans le junior, parce que je sais qu'il y a, il y a plusieurs catégories là, de hockey junior à travers le pays. Là, maintenant, on regarde aussi ce qui se passe du côté des États-Unis. Puis les recruteurs, la façon dont ils évaluent, c'est qu'ils accordent une note à chaque ligue. Puis ça veut pas dire que parce que tu brûles la Ligue de hockey junior majeur du Québec, que nécessairement tu vas être un joueur exceptionnel dans la Ligue nationale de hockey. Dans le cas de Mario Lemieux, ça se voyait pas encore.
Bien, écoute, évidemment, moi, j'étais junior majeur, donc tu regardes la Ligue nationale de hockey, c'est un rêve d'atteindre la Ligue nationale de hockey, mais on est conscient que la marche est très, très haute. Ouais. C'était difficile de penser que Mario pourrait être aussi... Il pourrait dominer autant la Ligue nationale de hockey qu'il a dominé, dans le fond, dans le junior majeur. C'est vraiment ce qui est arrivé. Puis écoute, petite anecdote encore là-dessus. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, mais quand il a battu le record de Guy Lafleur pour le nombre de buts, le dernier match de l'année, junior majeur, dernier match, Mario avait 127 buts. Le record appartenant à Guy Lafleur, c'était 130.
Ouais.
Mario, il a marqué 6 buts ce soir-là. Là. Puis là, on parle pas du Pee-Wee, là. C'est du junior majeur. C'est les meilleurs joueurs au hockey canadien entre 16 et 20 ans. Et puis, il a marqué 6 buts ce soir-là. Puis, le Wayne Gretzky était dans les gradins parce qu'à l'époque, il jouait pour les Oilers. Et puis, les Oilers jouaient contre le Canadien le lendemain, dans le temps, au Forum de Montréal. Et puis, Gretzky était venu assister à ce match-là avec Paul Coffey. Puis, j'ai eu la chance de jouer avec Gretzky en fin de carrière. Puis, il m'avait dit, écoute, ce soir-là, j'ai réalisé qu'il y avait un petit gars quelque part au Québec là, qui s'en venait me défier pour le titre de meilleur joueur au monde.
Puis, toi, est-ce que tu savais que Wayne Gretzky était dans la foule?
Oui, on était tout à fait. Écoute, Wayne Gretzky, quand il se déplace à cette époque-là, puis encore aujourd'hui, ça rend personne indifférent.
Oui, sur la glace, est-ce que ça faisait une différence? Est-ce que tu étais capable de t'enlever de la tête qu'un joueur comme ça? Parce que, tu sais, c'est sûr aujourd'hui que tu parles à un jeune de 20 ans que pour nous, Wayne Gretzky, c'est un dieu du hockey. Tu sais, oui, là, le hockey, j'aime ça. McDavid, il est bon, mais on dirait que c'est pas aussi intense que nous autres. L'intensité que nous, on avait peut-être dans les années 80 puis 70 pour ceux qui ont connu les années 70. T'sais, quand on entendait parler de Wayne Gretzky, c'était Dieu sur terre. Là. Pour vous autres, les joueurs de hockey qui étaient sur la glace, ils disaient un peu, le meilleur joueur de hockey au monde est en train de me regarder moi pendant que j'ai la rondelle. Ça devait être un petit stress supplémentaire.
Oui, je te mentirais pas. Et surtout quand tu es un défenseur et tu dois affronter Wayne Gretzky, m'a dit, c'est pas une position très, très confortable.
Non.
Puis je vais toujours me rappeler 2 anecdotes sur Wayne Gretzky. Puis écoute, si je parle dans mes anecdotes, on va en avoir pour la soirée au
complet. Mais c'est pas grave, faut gâter les auditeurs, Steven.
Mais Wayne Gretzky, quand je jouais pour les Nordiques vers la fin, on est allé jouer contre les Kings de Los Angeles. Lui, il était avec les Kings. Et puis, il y avait la rondelle dans le coin et je suis allé le frapper. Puis honnêtement, un peu plus fort que j'aurais voulu. Parce que tu voulais pas te laisser battre par Wayne Gretzky, mais tu voulais pas être celui qui le blesse non plus. Mais il était tellement fluide, il était tellement difficile à défendre contre que je l'ai frappé solidement dans le coin, il est tombé. Puis après ça, il a fallu que je me batte, il a fallu que je laisse tomber les gants 2 fois. Là. Il y a un des batailleurs là, au bord qui est venu me voir tout de suite après, puis il m'a dit, les gars, il y a quand même un respect, là, les gars m'appelaient Finner, il m'a dit « Hey Finner, we don't touch Mr. Gretzky ». Fait que j'ai dit « Correct, let's go, on a laissé tomber les gants. » Puis là, je suis pas en train de promouvoir la bataille, mais on a laissé tomber les gants. Je suis allé au banc de punition, j'ai servi mon 5 minutes. Je suis ressorti du banc de punition. Il y a un autre joueur des Kings qui est venu m'inviter à laisser tomber les gants. Fait que j'ai compris qu'il fallait faire attention à M. Gretzky.
Mais Steven Field, ce que je trouve intéressant, c'est que tu dosais les gars que tu ramassais dans la bande. Ça veut dire que tu devais te retenir parfois pour pas trop les démolir.
Oui, mais non, mais je te dirais qu'il n'y a pas grand monde qui a le statut. Bien, évidemment, il y en a un Wayne Gretzky. Là,
ouais.
Fait que tu, comme je te dis, c'était le visage de la Ligue nationale de hockey. C'était Monsieur Hockey pour nous, pour les joueurs de ma génération. Donc, tu ne veux pas le laisser te battre, évidemment, parce que t'es là pour faire gagner ton équipe, mais tu ne veux pas être celui qui le blesse non plus, tu sais. Puis une autre fois, à 2-1, Wayne Gretzky à la rondelle, puis moi, je suis le défenseur. Il a tenté une passe, puis j'ai fait un beau jeu défensif. J'ai glissé, puis j'ai empêché la rondelle d'aller vers son coéquipier. Et après ça, l'arbitre a sifflé le jeu parce que mon gardien a immobilisé la rondelle. Wayne est passé à côté de moi, j'étais encore sur la glace, puis il m'a mis la main sur le casque, puis il m'a frappé la tête, un peu comme qu'on fait avec un jeune, là, tu sais. En voulant dire beau jeu, kid, là, tu sais.
Ouais.
Fait que c'est des moments spéciaux.
Quand tu évoluais pour les voisins de Laval, tu dis Mario Lemieux était dans mon équipe. Est-ce qu'il a contribué à tes passes? Parce que je veux dire, tu étais un excellent défenseur, mais en plus, tu étais très offensif aussi dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Est-ce que Mario Lemieux évoluait en même temps que toi à l'attaque à ce moment-là?
Oui, c'est arrivé souvent que je me retrouvais sur la patinoire en même temps que Mario Lemieux. Puis écoute, pour un défenseur, c'était facile. J'arrêtais en arrière de mon filet. Mario passait chercher la rondelle et c'était quasiment une passe assurée. Donc, ça partait de la zone défensive. Mais oui, j'ai eu la chance d'être sur la patinoire à plusieurs reprises avec lui. Et puis, quel phénomène, là. J'ai jamais vu un gars contrôler le jeu comme il faisait. C'était incroyable.
Puis est-ce que tu savais que tu avais des chances d'évoluer un jour dans la Ligue de hockey nationale?
C'était mon rêve. C'était mon rêve. Et puis je te dirais que j'ai commencé à y croire vraiment à partir de probablement 15 ans, Midget 3 avec les Insulaires de Laval. À l'époque, l'équipe n'existe plus, mais les Insulaires de Laval. Et puis après ça, j'ai été repêché très tôt en première ronde avec les voisins de Laval. Et Pierre Lacroix, qui était probablement qui était l'agent, en tout cas québécois de loin, le plus influent dans la Ligue nationale de hockey, il était parmi les plus influents. avait approché mes parents parce qu'ils voulaient me représenter. Fait que donc rendu là, 15-16 ans, là, j'avais commencé à y croire sérieusement à mes chances.
Puis t'étais-tu au secondaire à ce moment-là? 15-16 ans, t'étais au secondaire?
Oui, secondaire, oui. Okay.
Puis t'as-tu décidé, t'as-tu dit, bon, je vais faire l'année nationale, Pierre Lacroix vient d'arriver dans ma vie, je lâche l'école, tout est fini?
Ben, écoute, sais-tu quoi? Dire la vérité, jouer au hockey junior majeur et le junior essaye d'encourager les jeunes, de les encadrer, leur donne des bourses, mais c'est très, très difficile. Tu sais, si tu regardes, ton focus est tout sur ta carrière parce que tu espères passer à l'étape suivante.
Ouais.
Et puis, c'est pas évident. Puis, j'étais sans fausse prétention, j'étais très bon à l'école. Et puis, j'ai fait une demi-année de cégep. Par la suite, durant ma carrière, j'ai essayé de faire un diplôme universitaire par correspondance, à distance, mais je ne l'ai pas fini. Mais c'est pas facile là, de combiner les deux. Le hockey rendu à cet enjeu, le hockey de haut niveau et puis les études.
Ouais. Tes parents étaient à l'aise avec ta décision de « bon, on est rendu au cégep, on a eu notre secondaire 5, on arrête là, tout est beau ». Est-ce que ça a été dur pour ton père, pour ta mère de dire « ok, Steven, on considère que tu as un bon potentiel au hockey puis tu pourrais te fixer ta vie pendant certaines années pour le hockey professionnel ».
Ouais, ben écoute, mon père il a quitté la maison, j'étais très très jeune, donc il n'a pas été très présent dans ma vie, mais okay. Pour ma mère, tu sais, je veux dire, pour elle également, c'est la première fois qu'elle vit ça, tu sais, est un peu démunie là-dedans. Et puis, heureusement, j'étais encadré justement par Pierre Lacroix, un homme qui a une bonne tête, un homme très influent, puis ouais. A eu beaucoup d'influence dans ma vie d'ailleurs, qui nous aide à composer avec tout ça. Mais je ne mentirais pas qu'au niveau études, ça l'inquiétait. Là. Parce que tu ne veux pas, si tu ne réussis pas, puis les chances de percer sont quand même minces. Si tu ne réussis pas, ben, tu te retrouves avec pas grand-chose en bout de ligne. T'sais.
Exact, exact. Et Pierre Lacroix, connaissant un peu le contexte, est-ce qu'il était un peu plus proche de toi, en sachant très bien que bon, tu avais juste ta mère, puis que ta mère n'était pas nécessairement habituée avec le hockey professionnel?
Oui, bien écoute, je te dirais que Pierre Lacroix, sa compagnie, ça s'appelait Jandex, ça voulait dire de janvier à décembre. donc 12 mois par année. Et puis Pierre, une des raisons qu'on avait accepté de travailler avec lui, c'est que Pierre prenait probablement à l'époque 25, maximum 30 clients, principalement ou sinon tous des Québécois. Donc, le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de joueurs, il était très, très présent dans notre vie. Là. C'est un gars qui nous encadrait beaucoup.
OK. Puis, il vous relançait même autour de 16, 17, 18. Il y avait toujours un suivi qui était fait?
Oui. Très, très, comme je te disais, très présent. Puis même ma première année avec les Nordiques dans la Ligue nationale de hockey, j'avais 19 ans, donc j'étais encore âge junior. J'ai commencé l'année avec les Nordiques, j'ai joué cette année-là 17 matchs réguliers, puis un peu avant les fêtes, ils m'ont renvoyé junior, et Pierre savait que ça serait tout un choc pour moi, pour l'athlète, c'est une grande déception, donc je suis allé rester chez lui pendant 2-3 semaines, il m'a amené chez eux pour s'assurer là, que je sois bien encadré et que j'aille un environnement positif. Là, fait que lui et son épouse Colombe ont été très, très généreux avec moi.
Puis la différence entre le hockey junior et la Ligue de hockey nationale, on nous disait à l'époque que c'était un step supplémentaire. Là. Pour vous autres, vous le viviez de quelle façon? Est-ce que, oui, effectivement, le hockey est beaucoup plus rapide, la prise de décision, il faut que ça soit des fractions de secondes parfois. Toi, tu l'avais-tu constaté à un très jeune âge que c'était ça? Ou bien tu disais, quelle injustice, on me retourne aux mineurs? Puis...
Déjà là, de jouer des matchs dans la Ligue nationale de hockey, quand tu es encore junior, c'est quand même exceptionnel. Ouais. Et puis, je le disais tantôt, la coche est haute. Le jeu est déjà très rapide dans le junior majeur parce que c'est les meilleurs. T'sais, c'est un entonnoir à l'envers. Là, plus que tu montes, moins qu'il y a de place. Là,
ouais.
Et puis, fait que tout va vite, mais en même temps, tu es encadré des meilleurs joueurs au monde. Donc, lorsque tu as la rondelle et que tu fais une passe, les gars sont à la bonne position. Lorsque tu fais une passe, les gars vont réussir à maîtriser la rondelle et le jeu va sortir facilement de ton territoire. Fait que c'est une adaptation, mais je te dirais que pour bien des gens, moi, ce que je dis, ce qui fait la différence rendu là, tout le monde a du talent, mais c'est vraiment une question de caractère, une question de confiance, une question d'attitude. Là, t'sais. Parce que tu arrives là du jour au lendemain, t'sais, premier camp d'entraînement, tu t'assis dans le vestiaire à côté de Peter Stachny, Michel Goulet, m'a dit, c'est intimidant à ta barouette, là. Mais quand t'embarques sur la glace avec eux, il faut t'oublier que t'es regardé à la télévision, puis il faut que tu, euh, faut que tu fasses sentir ta présence.
Oui, on va parler de ce moment-là d'ailleurs, mais juste une petite anecdote. Quand il y a eu la grève dans la Ligue nationale de hockey, je pense que c'était 2005, 2006, 2007 dans ce secteur-là à peu près.
Oui, ça ressemble à ça.
Je m'en rappelle plus, mais j'avais joué contre des gars de la Ligue nationale à l'Harpie, à Charlebourg. Puis, tu sais, pour moi, qui n'ai jamais été très, très bon au hockey, je trouvais que les gars allaient vraiment vite. Puis, j'ai la même position que toi au hockey. Donc, j'étais à la défense, puis je reculais, puis je réussissais tout le temps à enlever la rondelle aux joueurs. Puis là, je comprenais pas parce que j'allais beaucoup moins vite qu'eux autres. Mais je me disais, mais c'est-tu mon jeu défensif qui est supérieur et tout ça? Puis je jouais avec Marc Fortier, qui était à ma droite. Puis en revenant au banc, je disais à Marc, « Marc, veux-tu même dire comment ça je suis capable de leur enlever la rondelle? C'est-tu eux autres qui se forcent pas? » Il dit, « C'est simple. » Il dit, « T'es tellement lent que t'es toujours dans des places où t'es pas supposé d'être. »
Ah, c'est bon!
Moi, je pensais avoir un beau commentaire de Marc Fortier. Finalement, il m'a insulté, mais il disait la vérité.
Je le reconnais, Marc.
Les gars sont tellement synchronisés, sont tellement habitués de faire leurs gestes que quand il y a quelqu'un qui n'est pas supposé d'être là, ils sont tout mêlés. Là.
Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Écoute, moi, quand j'ai pris ma retraite, j'ai commencé dans une ligue de garage. Là. Malheureusement, ça m'arrivait que j'allais pour aller frapper le gars dans le centre de la patinoire, tu sais. Mais c'était pas voulu, mais c'était un automatisme. Ouais. Ça faisait 16 ans que je faisais ça, si je compte mes années juniors. Là. Ça faisait 16 ans que je faisais ça, donc l'automatisme était tellement ancré en moi que c'est arrivé une couple de fois, puis heureusement, à la dernière minute, j'ai comme freiné, mais il y a quand même eu un contact là, dans le centre de la patinoire. Fait que c'est de changer des habitudes, tu sais.
Ouais, la vitesse d'exécution était exceptionnelle, puis les gars, ils étaient là juste pour une remise en forme, ou du moins pour la garder, alors que moi, je pensais qu'ils jouaient à pleine pine. Ça doit être terrible dans le show en haut quand les gars, ils se donnent pour gagner la partie. Donc,
la différence aussi, c'est le jeu collectif. Je vais te conter une autre anecdote. Justement, à la retraite, j'ai eu la chance de jouer, tu sais, de faire des voyages, puis jouer des matchs avec des anciens, ils appelaient ça les légendes du hockey, là. Puis à un moment donné, c'était notre quatrième match en quatre soirs, puis on avait une couple de joueurs là, de 55 ans, là, tu sais, Guy Lafleur, Yvon Lambert, Gilbert Perrault, tout ça. Puis on joue contre une équipe senior qui jouait là, tu sais, c'était des jeunes hommes qui jouaient senior. Puis la première période, ils nous ont dominés parce qu'on était brûlés. Après quatre matchs en quatre soirs, on avait mal partout. Ils nous ont dominés la première période, on perdait 3 ou 4-0. Puis là, dans le vestiaire, les gars, on veut pas perdre. Fait qu'on a encore de la fierté. Les gars, on se crinquait, puis on se donnait même de la marde dans le vestiaire. Finalement, on les a battus quelque chose comme 8 à 4, je pense. Ils ont pas touché la rondelle après parce que la différence, c'est qu'eux autres, ils essayaient de nous battre un contre un. Nous autres, on bougeait la rondelle. Là. C'était incroyable.
Ouais. Donc, le jeune Stephen Finn qui part du junior puis qui arrive dans la Ligue nationale de hockey, pour la première fois, quand il rentre dans la chambre, il y a des stars qui sont là, qui sont bien établis. Tu as parlé des Stachny qui étaient là. Tu as parlé de Michel Goulet aussi qui était là. C'était quoi ton mindset avant d'entrer dans cette chambre-là? Parce que j'imagine que ça devait être comme, attends un peu, là, je t'en en train de réaliser le rêve de ma vie, mais les gens qui vont être là, faut pas qu'ils voient que je vais réaliser le rêve de ma vie. Là. Faut qu'ils voient que je suis là pour les bonnes raisons. Ton mindset avant d'entrer dans la chambre, c'était quoi?
Bien, c'est de pas oublier pourquoi. Ça fait cliché, là, je suis conscient, là, mais faut pas oublier pourquoi l'équipe t'a repêché. Il y a une raison pourquoi ils t'ont repêché, il y a une raison pourquoi ils croient en ton potentiel. Donc, faut que tu t'essayes de bloquer les distractions le plus possible, puis que tu réalises que t'es pas là comme groupies, mais t'es là pour faire ta place.
C'est ça, tu peux pas rentrer puis demander un autographe à Peter Stachny en mettant ta poche de hockey à côté de la sienne.
ça se fait. Mais... ça se fait, mais je l'ai pas fait. Mais écoute, on l'a tous fait quand Guy Lafleur est arrivé avec les Nordiques, par exemple.
Ah oui?
Ben, quand Guy s'est présenté dans le vestiaire des Nordiques, là, lui, il avait pris sa retraite. Il avait arrêté quasiment 4 ans. Il était déjà intronisé au Temple de la Renommée. Puis la première fois qu'il rentrait dans le vestiaire des Nordiques, honnêtement, malgré que c'était un coéquipier, là, tous les gars, on lui a demandé des photos, des autographes. C'était assez particulier.
Là. Puis lui, c'était un grand fumeur en plus. Il fumait-tu dans la chambre à l'époque?
Ouais, malheureusement.
Ouais. Puis, OK. Puis quand t'as réalisé tes premières journées avec les Nordiques de Québec, tu sentais-tu que la vibe avait un peu changé pour toi? Est-ce que tu te sentais arrivé où tu te disais, hit, tabarouette, il me reste, tu sais, atteindre ce genre de sommet-là, puis je vais t'expliquer pourquoi je te parle de ça. Tu sais, je discutais avec Georges Saint-Pierre. En fait, je discutais pas avec Georges Saint-Pierre, là. J'ai assisté à une conférence de Georges Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre a dit, j'ai tellement bûché pour arriver premier d'être le champion du monde que je pensais qu'à partir du moment où je devenais champion du monde, tout s'arrêtait. Puis là, je me suis rendu compte que c'est... Non, t'as peur. C'était le début. C'est le début. Je suis champion du monde. C'est le début parce que là, tout le monde veut m'abattre.
Ouais.
C'était... Toi, tu te sentais comment à ce moment-là, arrivé là?
Ben, écoute, assez rapidement, tu sais, un coup que le... Quand je suis arrivé, je vais toujours m'en rappeler, mon premier camp d'entraînement, là, je suis arrivé, j'avais joué un match junior majeur, le camp à Laval. Après ça, j'ai pris mon auto, je me suis rendu jusqu'à Québec, j'ai couché au Château Bonentente, puis le camp d'entraînement commençait le lendemain avec les tests physiques et tout ça, puis après ça, le surlendemain sur la patinoire. Puis je te dirais qu'un coup que les premières journées là, tu sais, d'excitation, où est-ce que tu es un peu intimidé et tout ça, quand j'ai embarqué sur la glace, sans faire prétentieux, j'ai réalisé assez rapidement que j'avais ma place, que je pouvais jouer avec ces gars-là. Et puis, comme je disais tantôt, c'est l'attitude à avoir parce que, tu sais, si je reviens à ce que Georges Saint-Pierre disait, puis je comprends ce qu'il dit, mais j'ai pas été champion du monde, moi, dans un sport de combat. Mais tu regardes la moyenne des carrières dans la Ligue nationale de hockey, là, c'est de 4 ans et demi. Puis t'as 50% des joueurs qui jouent moins de 100 matchs. Fait que ça démontre à quel point c'est compétitif, ouais. Puis que tout le monde veut ta job. Là. Quand exact. T'es rendu là, tu peux pas dire, OK, je suis rendu. Là. Faut pas que tu t'assises sur tes lauriers, puis... Faut t'ailles de la discipline, puis il faut que tu te présentes à tous les jours parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui veut ta job. Là.
T'as géré comment ton premier chèque de paye?
Écoute, c'était pas les payes d'aujourd'hui,
ouais.
Mais puis là, je pourrais pas le trouver aujourd'hui, mais longtemps, j'ai gardé mon talon de chèque. J'avais une photo de ça. Tu sais, c'est comme le premier contrat que tu signes, ton premier chèque de paye. C'est toutes des étapes là, que tu réalises, gars, j'ai travaillé fort, mais je suis rendu là. Puis à un moment donné, il ne faut pas oublier de célébrer aussi ces victoires-là. Là,
ouais. Est-ce que vous étiez encadré? Je sais que M. Lacroix était très près de ses joueurs. Est-ce que vous étiez encadré, justement, pour la gestion de l'argent? Puis est-ce qu'il vous disait, Stephen Finn, tu as une après-carrière? Là, oui, tu es dans la Ligue nationale. Oui, tu vas gagner bien ta vie pendant des années et des années. Tu as une après-carrière. Il faut que tu la prépares là. Ce ne sera pas à la fin de ta carrière.
Je ne sais pas si vous avez lu le reportage dernièrement de Simon Gagné, là, quand il disait qu'avec ses agents, c'était la chaise électrique. Là.
Oui.
Ben, c'était Pierre Lacroix et Jean Deck. Donc, à tous les étés, on passait dans son bureau, moi et mon épouse à l'époque, Nathalie, qui est la mère de mes enfants. Là, venait avec moi à la chaise électrique. Et puis, on analysait, on faisait les budgets, on analysait chaque dépense, on regardait ce qui restait, on faisait des projections. Parce que, comme je te dis, les carrières ne sont pas longues. Et puis les chèques de paye, c'est pas ce que c'est aujourd'hui. Donc, fallait gérer nos choses intelligemment. Et puis à 18 ans, t'es pas équipé pour faire ça. Donc, l'importance là, d'avoir d'être bien entouré.
Ouais. Donc, mais est-ce que tes amis ils t'ont vu comme d'une autre manière? Tu sais, quand t'as atteint la Ligue nationale, bon, ben mon chum c'est Stephen Finn, mais tu sais, t'avais des amis dans le hockey mineur. Est-ce que ces gens-là sont restés autour de toi? Y a-tu d'autres gens qui ont essayé de t'approcher parce que là tu venais comme d'atteindre un certain statut, puis t'avais un certain montant d'argent qui entrait chaque semaine ou chaque mois? Je sais pas comment vous étiez payé.
Ouais, ben écoute, il y a oui, il y a beaucoup de mes anciens coéquipiers, amis, qui avaient un sentiment de fierté d'avoir côtoyé ou d'avoir joué avec un gars qui était maintenant dans la Ligue nationale de hockey. Mais je veux dire, c'était des gens qui avaient été vraiment dans ma vie. Mais tu as toujours des gens qui vont tenter de se rapprocher. Puis principalement au niveau investissement, au niveau de l'argent, il y a tout le temps des gens qui ont l'idée du siècle, qui vont faire des rendements, tout ça, et... Il faut être très prudent parce que il y a bien des gens qui sont mal intentionnés, là, tu sais.
Oui, effectivement. Est-ce que bon, moi quand j'étais un petit peu plus vieux, je croisais les joueurs des Nordiques au Dagobert. est-ce que
le Dagobert, c'est où ça?
Ah oui, c'est quelque part ça à Grande Allée, là.
Ah oui, hein?
Mais je me souviens, puis je pense que tu l'as côtoyé aussi. Je me souviens quand j'étais au Dag. Il y a une montagne qui est passée à côté de moi. Je me dis, voyons, qu'est-ce que c'est ça? C'était Chris Simon. Au niveau du, au niveau des pectoraux, là, c'était épais. Je me dis, mais voyons donc, comment un être humain peut être bâti comme ça? On vous voyait souvent passer. Ça aussi, ça devait être quelque chose de particulier. Toi, t'es à Laval, bon, les gens te connaissaient, t'étais Stephen Finn, mais là, t'arrives à Québec, dans une grande ville qui ressemble pas à Montréal, mais une ville où quand même le hockey est hyper important. Vous aviez un certain statut quand vous sortiez des bars, quand vous étiez dans les restaurants. Est-ce qu'il y avait un suivi aussi de ça en disant « faites attention à vous autres, les gars ».
Ouais, ben oui, on avait des meetings à toute l'année, à toutes les années, début de saison, avec la sécurité de la Ligue nationale de hockey, parce que il y a des choses qui se passaient dans toutes les villes de la Ligue nationale de hockey. Puis comme tu le dis, au Québec, on est très regardé, on est quand même des célébrités. J'aime pas le mot là, mais on est quand même des célébrités. Et puis moi, je le disais souvent à mes coéquipiers, quand vous sortez dans les bars, c'est d'être prudent, évidemment, pour plusieurs raisons. Puis ça m'est arrivé à moi-même, où est-ce que des gars assez costauds vont venir te tester. Là. Ils veulent se mesurer, ils veulent se tester. Faut faire attention de ne pas embarquer là-dedans, mais on est des gars qui ont quand même le caractère bouillant, qui ont le sang chaud, donc faut que tu fasses attention. Et puis, il y a une façon de se comporter en public. Mais des fois, c'est pas évident parce que, comme je te dis, tu arrives dans la Ligue nationale, tu es jeune. T'es idolâtré, donc c'est pas évident de garder les deux pieds sur terre.
Oui, effectivement. Puis, vous n'êtes pas si beau que ça, mais toutes les filles étaient après vous autres.
Ouais. Mais écoute, moi j'ai rencontré celle qui est devenue mon épouse, je l'ai rencontrée à 17 ans. Fait okay. Que j'ai eu du plaisir quand même. J'ai sorti avec les boys, mais j'allais pas si souvent que ça au Dagobert parce que j'ai fondé ma famille jeune. Mais j'ai certains de mes coéquipiers qui m'ont conté pas mal d'anecdotes là, qui se sont passées au Dagobert, en effet, oui.
Qui étaient les vétérans quand tu es arrivé chez les Nordiques de Québec, Stephen Finn? Qui étaient les vétérans qui t'ont accueilli puis qui ont dit, tu sais, bienvenue dans le club, puis merci d'être là, puis tu travailles fort, continue comme ça? Qui étaient les gens qui t'épaulaient?
Écoute, il y en avait plusieurs vétérans. Je t'ai dit tantôt, tu sais, Peter Stachny, Michel Goulet, ces gars-là, mais des gars qui m'ont beaucoup aidé à mes débuts. Il y avait un gars, Richard Sivigny, qui était avec l'équipe. Ah, Mario, oui. Gosselin, c'est drôle, c'est deux gardiens de but, mais Mario Gosselin à l'époque, Normand Rochefort, Mario Marois, c'est tous des gars là, qui m'ont beaucoup aidé là, à m'acclimater puis à comprendre là, c'était quoi être un professionnel puis jouer dans la Ligue nationale de hockey.
Puis aviez-vous une belle relation avec les stars de l'équipe? Tu sais, quand tu rentrais, est-ce que les stars de l'équipe, ils vous parlaient ou ben ils se tenaient peut-être un peu plus ensemble, ils vous mettaient un peu
écoute,
à l'écart?
Tu sais, tout le monde a sa personnalité. Puis ouais. Peter Stachny, m'a dit, c'est un gars, je sais pas si tu as eu la chance de le rencontrer.
Non.
Mais tu sais, c'est pas un gars qui est extravagant, exubérant, Peter. Là. C'est un gars qui est très, très réservé. Puis évidemment, il a été élevé en Slovaquie et tout ça. Donc, Peter, t'es pas facile d'approche, t'es intimidant, mais c'est un gars qui était. C'était un gars d'équipe, c'était un bon gars. Puis écoute, j'ai été co-chambreur avec lui un moment donné sur la route. Je suis rentré dans sa chambre, il était en train de lire un journal sur la politique, puis tout ça. Puis il m'a dit, tu fais pas trop de bruit, là. T'ouvres pas la télévision, puis tu mets pas du heavy metal dans la chambre ou whatever, là, tu sais. Mais je te dirais que les gars, avec leur personnalité, tout le monde était facile d'approche. Puis, je veux dire, en bout de ligne, on est une équipe, on a besoin de tout le monde. Là, ça peut faire cliché, mais c'est la réalité.
Ouais.
Pour aider les jeunes à s'intégrer à l'équipe puis à aider l'équipe.
Puis, dans un sport d'élite comme ça, il y en a qui ont des talents naturels, qui n'ont pas nécessairement besoin de se pratiquer à tous les jours puis de faire attention à leur santé. Puis, il y en a d'autres qui ont dû travailler extrêmement fort pour atteindre un certain niveau. Puis il travaille constamment encore, tu sais. Ça devait être un peu injuste de voir qu'il y a des, tu sais, il y a des joueurs qui arrivaient dans la Ligue nationale, qui étaient extrêmement talentueux, pas besoin nécessairement de s'entraîner, puis d'autres qui devaient bûcher comme à chaque jour pour conserver leur place. Tu disais à quel point, tu sais, oui, t'es un excellent joueur dans la Ligue nationale de hockey, mais il y a du monde qui voulait ta job, qui était d'excellents joueurs aussi. Ça doit être choquant des fois de voir que toi, ben, tu dois faire attention à tout, puis il y en a d'autres que, bon, c'est pas si grave que ça. Là, on joue demain, on va se coucher, on va défier le coach, puis on va défier le couvre-feu.
Mais écoute, je te dirais, Yannick, j'en ai pas vu trop des, comme tu dis, là, des super talentueux qui n'ont pas besoin d'y mettre l'effort. Évidemment, okay. T'en as des plus talentueux que d'autres, mais le plus talentueux, ben, il est habitué de marquer 50 buts, fait qu'il se met la pression d'en marquer 50. Je me rappelle, Michel Goulet, quand il tombait dans une léthargie. Puis une léthargie, pour lui, c'est peut-être 5-6 matchs. Là, moi, une léthargie, c'est 3 saisons. Là, mais... non, mais lui, fait que lui, Michel Goulet, je me rappelle, quand il tombait d'une léthargie pour lui, il était le premier gars à embarquer sa patinoire avant les pratiques. Il embarquait tout seul avec des chaudières de rondelles. Là. Il mettait des rondelles d'à peu près toutes les angles dans zone offensive, puis il prenait des lancers. Là, à... Je ne vais pas exagérer, là, il devait prendre 500 lancers. Donc, même les super talentueux ont besoin de travailler là, pour rester à leur niveau. Là.
OK. Puis, vous avez eu des personnages assez bizarres chez les Nordiques de Québec. Là. Bon, je parlais de Chris Simon, qui était une montagne. Là. Il y avait aussi Tony Twist, que j'ai bien aimé. Ouais. ça avait l'air de toute une personnalité aussi. T'es pas très grand, Tony. T'es à peu près de ta grandeur, CC1, CC2.
Ouais, il était un peu plus grand, mais pas. C'était pas un géant, mais il était. Il avait tough, c'était incroyable.
Il avait peur de personne, il était méchant. Hein.
Ah, écoute, Tony, ça va faire drôle des gens d'entendre ça, là, mais il pouvait s'asseoir il s'assoyait à terre, là, puis il entraînait ses jointures sur le plancher, là, tu sais. Puis c'est pas la meilleure chose pour les mains, mais pour les rendre plus résistantes, et puis. Donc, écoute, il avait des mains incroyables et puis il avait une force de frappe. Il était craint, mais en même temps, la plupart des durs à cuire, des policiers à l'époque, t'as plus ça vraiment dans les nationales de hockey aujourd'hui, là, mais les ceux qui étaient là pour se battre principalement, là, c'est tout du bon monde en dehors de la patinoire. Là. Je me rappelle Tony Twist, un match, on jouait contre New Jersey. Moi, je venais de me battre contre Shanahan. On était les deux dans le banc de punition, puis il y avait une mise au jeu en zone centrale juste devant le banc de punition. Et puis, il a laissé tomber les gants, Tony, contre Mike Peluso. Et puis, il a knocké solide. Puis souvent, quand tu knockes le gars dans les airs, ben t'es pas certain, puis il y a un autre point qui arrive avant qu'il tombe. Fait que Peluso était tombé la tête sur la patinoire, et puis il a perdu connaissance. Et puis, New Jersey prenait l'avion après le match pour retourner à New Jersey. Mais Peluso, il l'avait gardé à l'hôpital à Québec en observation. Et puis, Tony Twist, après le match, il s'est dépêché. Ça a été le premier gars à sortir du vestiaire. Il s'est rendu à l'hôpital pour aller voir Peluso. Puis, il est allé le voir. Puis, il a dit, hey man, I'm sorry. En anglais, tu sais, je suis désolé. Puis, Peluso, il a dit, non, on a tout un travail à faire. Puis, j'étais volontaire.
Donc, il y avait un certain respect là, chez les bagarreurs quand même.
Ben, il y a un respect. Je veux dire, t'es là, t'as un rôle à jouer. L'intimidation fait partie du sport, mais encore là, tu souhaites pas blesser sérieusement quelqu'un d'autre. Et puis, tu parlais de Chris Simon. Malheureusement, Chris qui s'est suicidé il y a pas si longtemps. C'est un rôle qui est très, très ingrat et qui est très, très difficile psychologiquement, là.
Oui. Est-ce que c'est dans tes années où, écoute, je suis en train de perdre son nom, là, mais il y a un joueur des Nordiques qui était décédé au motel Maxime?
Cordick.
John Cordick, oui. Il y avait une intervention policière, puis le cœur a sauté aussi. Ça devait... Est-ce que tu étais dans le club? Tu étais chez les Nordiques à ce moment-là?
Oui, oui. J'étais co-capitaine avec Joe Sakic. Puis
ça devait être
une anecdote là-dessus. Puis je peux me permettre d'en parler parce que c'est pas de l'information privilégiée. Là, mais John, dans son contrat, quand les Nordiques l'ont signé, il avait déjà. C'était connu qu'il y avait déjà des problèmes de consommation.
Oui.
Et puis, les Nordiques avaient mis dans son contrat tolérance zéro. Si jamais on te prend à consommer, mais le contrat est nul. Le contrat est annulé. Et puis, Cordick s'était fait prendre. Et puis, il avait demandé à me jaser. Puis, il pleurait comme un bébé. Là, puis, il m'a dit Finner. Comme je te dis, les gars m'appelaient Finner. Il pleurait. Puis, il dit Finner. Il dit T'es quand même respecté dans l'organisation. Tu peux-tu intervenir pour moi? Puis, j'ai dit John, j'ai dit, tu sais, t'as eu plein de chance. J'ai dit la meilleure chose que tu peux faire pour toi, c'est va consulter, va chercher de l'aide. Ben il y a une vie après le hockey. Là, puis écoute, comme tu dis, ça n'a pas longtemps après, il est décédé à Québec. C'est une histoire qui est très, très triste. C'est John Cordick, junior majeur, c'est un gars de mon gabarit. Là. C'est un gars de 6-6-1, 195 livres. Puis quand il est arrivé dans la Ligue nationale de hockey, il a réalisé qu'il manquait peut-être un peu de talent pour jouer régulier, mais s'il voulait le rôle de policier, qu'il avait le talent pour le faire, les capacités de le faire. Puis du jour au lendemain, il est monté à 230 livres. Là, c'était pas normal.
Non, c'est ça.
Pas normal. Là, fait que c'est un gars qui avait beaucoup de tics nerveux, très stressé avant les matchs. C'était pas chic.
Steven Finn, bon, c'était pas le plus gros dans la Ligue nationale de hockey, mais pour t'avoir vu évoluer, Steven, t'avais peur de personne non plus. C'est qui le plus gros joueur que t'as pogné? Puis tu te disais, mais ce gars-là, c'est... C'est un vrai tough, parce qu'il y avait des vrais toughs dans ton temps. T'sais, Bob Probert, là, il avait pas de l'air du gars le plus gentil sur la patinoire, puis tu savais pas trop qu'est-ce qu'il allait faire si jamais tu étais dans le coin avec. Puis toi, ta job, c'était de tasser les gens devant le filet, puis d'aller ramasser dans le coin en défensive, puis de sortir le plus possible la rondelle. C'est qui le gars qui t'a marqué pendant ces années-là, que tu te dis « ça se peut pas que ça existe, un gars de même ».
Ben écoute, il y en avait plusieurs. Là. Tu parlais de Probert. Heureusement, j'ai pas eu à laisser tomber les gants contre lui, mais je l'aurais fait. Avoir été pris, je l'aurais fait. Ça m'est arrivé, là, tu sais, que de comme tu dis, devant le filet, je jouais robuste avec lui. Puis ouais, en début de carrière, un moment donné, il s'est reviré, puis il m'a dit « Kid, we're gonna go ». Là, je regardais ailleurs, j'espérais qu'il laisse pas tomber les gants. Mais écoute, quand on est à Détroit, il y avait Probert puis Kosher dans la même équipe. Là.
Ouais.
Je peux te dire que tu parlais de Tony Twist, Kosher, c'est un Tony Twist. Là. À tous les fois qu'il frappait, il y a de quoi qui cassait. Là.
Ouais.
Et moi, dit, l'après-midi des matchs, quand je jouais contre les Red Wings de Détroit, je dormais pas trop. Là. Mais je te dirais que je me suis battu contre des gars, des durs, il y en a plusieurs. Là. Tu sais, un gars comme Cam Neely, c'était un marqueur de 50 buts, mais il était... C'était un gars qui était très, très tough. C'était un gars qui était mesquin, là, tu sais, qui était... Il te donnait pas de chance. Tu sais, Bérubé, qui est rendu l'entraîneur à Toronto,
c'est un
dur, ouais, aussi. Tu sais, il y en a plusieurs, là, évidemment. Là.
Ouais. Mais c'était incroyable de vous voir évoluer. Puis quand on regarde des anciennes parties qui sont encore disponibles sur YouTube, c'est à se demander comment vous faisiez pour faire tous ces matchs-là. Vous faisiez toujours accrocher. Il y avait toujours des coups qui se donnaient sur les mains. C'était un peu plus salaud qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu montres le hockey des années 80 à des jeunes de 20 ans, ils disent « mais c'était des fous! »
Ouais.
Alors que...
Non, c'est ça. C'était beaucoup plus tolérant à l'époque. Là, c'est pour ça que... Tu sais, tu regardes les records des gars comme Mario Lemieux, tu sais, Wayne Gretzky, évidemment, puis dans les années 70, un gars comme Guy Lafleur, là.
Ouais.
Partout ce qui allait, Guy se faisait intimider, des coups de bâton, mais il a réussi à dominer la Ligue nationale quand même pendant des années, là, tu sais, fait que c'était... Puis partout ce qui allait, il y avait quelqu'un qui s'accrochait après lui, là, tu sais, c'était... Le hockey était différent, le hockey était beaucoup plus robuste. Là.
Puis, tu sais, vos jobs étaient tout le temps en jeu pour la plupart. Il y en a qui prenaient des chances, qui étaient blessés, puis qui jouaient quand même sur leurs blessures. Ça devait pas. Est-ce que toi, t'as aussi fait ça? Des maux d'épaule, des maux de tête, des maux de genoux?
Pour mieux répondre à ta question, je me rappelle pas d'avoir joué un match sans blessure. Écoute, une petite anecdote, là, puis malheureusement, je parle de combat, mais je veux dire, ça faisait partie de mon jeu, puis encore là, je suis pas un gars qui encourage ça, puis aujourd'hui, je me demande comment j'ai fait, puis mes mains me le disent des fois, là, mais un match à Buffalo contre Rob Ray, je laisse tomber les gants contre Rob Ray, puis il m'a fendu au-dessus de, dans l'arcade sourcilière, il m'a fendu pour 8 points de suture, puis entre la deuxième et la troisième période, je m'en vais dans le vestiaire à Buffalo pour me faire les points, puis là, le médecin, il dit, écoute, si je te gèle, ton œil va enfler, tu peux pas retourner en troisième. Fait que j'ai dit, fais-moi les points à froid, là, tu sais. Fait qu'il m'a fait les 8 points à froid parce que je voulais absolument retourner sa patinoire pour montrer à Rob Ray que c'est pas lui qui me sortirait du match, là. Fait qu'écoute, ça fait partie du hockey. Je me rappelle pas d'avoir joué un match sans blessure, mais évidemment, il y a des blessures qui fait que tu peux pas jouer. Mais on joue tout le temps avec bobo, genoux, épaules, dos, les mains. Il y a tout le temps de quoi. Là.
Ouais. Heureusement, aujourd'hui, il y a des protocoles là, de la Ligue nationale pour ce qui est des commotions cérébrales. Là, parce qu'on sait que quelqu'un qui fait des commotions cérébrales à répétition, il va nécessairement y avoir des problématiques dans les prochaines années. Les questions que je voulais te poser, qui restent à te poser du moins. Stephen Finn, quand tu étais pour les Nordiques de Québec, moi, je criais dans les estrades, puis je criais fort. Est-ce que vous entendez la foule crier ou à un moment donné, vous ne l'entendez plus puis vous êtes tellement dans votre mindset qu'il n'y a plus rien qui existe à part la rondelle, vos joueurs, les joueurs de l'autre équipe puis les gardiens des deux côtés avec les arbitres qui sont dans les jambes tout le temps?
Écoute, excellente question. Il y a plusieurs façons de répondre, mais à Québec, sincèrement, là, c'est parmi les meilleurs partisans dans la Ligue. C'était incroyable jouer dans la Ligue nationale à Québec. Malgré les années difficiles, l'aréna était toujours pleine et puis les partisans étaient bruyants. Fait que oui, on les entend, mais quand tu avances dans ta carrière, une des choses les plus impressionnantes quand tu commences dans la Ligue, mon premier match, je m'en rappelle, moi, à Québec, puis sur la route à Chicago, là, t'embarques sur la glace, c'est tellement intimidant, tellement étouffant de voir la foule puis le bruit. Mais à un moment donné, la rondelle tombe, tu as un travail à faire et puis tu retrouves ton focus, là. Mais à Québec, c'était des partisans incroyables.
Ouais. Est-ce que tu prenais le temps de regarder l'amphithéâtre quand tu rentrais sur la patinoire, de dire tabarouette, ces gens-là sont là pour nous autres. Faut que je donne le meilleur de moi-même. Oui, tu prenais le
toujours,
temps.
Toujours. Dans la période de réchauffement, évidemment, pas tous les partisans étaient arrivés, mais c'était impressionnant de voir qu'il y avait déjà beaucoup de monde pour la période de réchauffement. Et lors des hymnes nationaux, moi, je prenais tout le temps de l'apprécier, là, tu sais, de regarder la foule et puis de l'apprécier puis de réaliser que j'étais choyé là, d'être là sur la patinoire.
Oui, parce que c'était tellement important de le faire quand on a ce type de succès-là. Je parlais avec Gaétan Royer qui a joué quelques matchs dans la Ligue nationale de hockey, Gaétan. Puis lui, si c'était à refaire, là, il prendrait le moment que toi, tu prenais pendant l'hymne national, c'est-à-dire à chaque fois de prendre conscience de la chance que vous aviez. On dit la chance, mais vous avez travaillé extrêmement fort, mais de la chance que vous aviez de voir des spectateurs qui sont là pour vous voir évoluer, puis qui vous acclament, qui disent « Hey, Steven ou Gaétan, dans son cas, crème, je te regardais jouer aujourd'hui, mais il me semble que tu étais vraiment dans ton élément, j'aimais ça, puis la foule a applaudi quand tu as réalisé un beau jeu ou quand tu as fait un but ou quand tu as fait une passe. T'sais. C'est le fun, ça. Mais lui, tu vois, il prenait pas la peine comme toi de le faire. »
Ouais, puis ben écoute, c'est facile, je veux pas en vieillissant, de regarder en arrière et de dire, tu sais, j'aurais dû. Puis oui, il y a des choses qu'on ferait sûrement différemment, mais ça, je peux te dire que c'est pas tout des bons souvenirs, ma carrière, mais de prendre le temps d'apprécier le support de la foule, ça, je peux te dire que je l'ai fait, là.
T'évoluais comment au travers d'une équipe qui était pas nécessairement tout le temps une équipe gagnante? T'écoutais-tu la radio?
Ça a été très, très difficile. Sérieux, ouais. Là, ça a été... Parce que moi, quand je suis arrivé, l'équipe était compétitive.
Ouais.
Mais c'était la fin, justement, plus en fin de carrière pour des gars comme Michel Goulet, Peter Stachny. Et puis, ouais. On n'avait pas eu trop de succès au repêchage. Les premiers choix, pendant 3-4 ans, n'ont pas vraiment fait l'équipe ou contribué au succès. Donc, il y a eu une période creuse, évidemment, quand ces gars-là sont partis, les Peter Stachny, les Michel Goulet, etc., etc. Et en tant que Québécois, c'était très difficile parce que je me devais de répondre aux médias à tous les jours, après les pratiques, après les matchs, puis je me faisais un devoir de le faire parce que les médias ont tout le temps été très respectueux envers moi. Puis dans le fond, les médias, c'est le contact entre nous et le partisan, donc ils ont un rôle important à jouer. Fait que, mais à un moment donné, tu sais plus quoi dire, là. Tu sais, c'est que du négativisme et puis ça devient très lourd et très difficile. Ouais. Ça a été beaucoup plus long que l'aurait espéré, bien évidemment, la reconstruction, là.
Mais aujourd'hui, est-ce que ça te sert, ça? Justement, de toutes les années que tu as dû subir nécessairement le fait que vous n'aviez pas la meilleure des équipes, tu devais quand même garder ton positivisme au travers de tout ça, essayer de ressortir des éléments qui... Oui, il y a des éléments négatifs, ce qui fait en sorte qu'on a perdu, mais il y a des choses extrêmement positives. Est-ce qu'aujourd'hui, ton expérience que tu as acquise dans ces années-là te sert dans ton quotidien?
Ben, il n'y a aucun doute. Ouais. Je veux dire, c'est dans les moments difficiles, dans le fond, que tu développes ta résilience, là, tu sais, fait que... Et ça t'aide à mettre les choses en perspective quand tu vis des événements ou des parties plus difficiles dans ta vie, ben, ça t'aide à mettre les choses en perspective.
Quand t'as vécu la misère humaine à Tampa Bay, là, t'es parti de Québec, là, une ville où il fait toujours beau, où il n'y a jamais de neige, où la vie est belle, où pas stressante, puis t'es arrivé à Tampa, ça a donc bien dû être difficile de t'adapter au climat. C'est...
Mais écoute, tu vas rire, Yannick, mais ça a été la pire année de ma vie au niveau professionnel, parce que, ben non, mais je veux dire, ça a été le déchirement, ça a été le déménagement de l'équipe au Colorado, cette saison-là.
Ouais.
Et moi, comme Québécois, sérieux, j'avais un grand sentiment d'appartenance à Québec. Ça faisait 10 ans, mes 3 enfants étaient venus au monde là. Je vivais là à l'année, j'étais plein d'amis, là, tu sais. Puis pour mes amis, puis plein de partisans que je côtoyais, et pour eux autres, c'était comme une peine d'amour de voir l'équipe partir.
Oh,
là,
oui,
t'sais.
Mais vraiment, mais en même temps, toi...
Donc moi, comme athlète professionnel, j'avais un contrat de 3 ans, je devais suivre l'équipe au Colorado. Colorado, qui est une très belle ville en passant, là, ouais. On n'était pas mal chanceux de s'en aller au Colorado, mais c'était un gros déchirement de quitter Québec. Et fait que je me suis en allé au Colorado, moi j'ai acheté une maison, mes enfants commençaient l'école, puis à la fin du camp d'entraînement, Pierre Lacroix, qui avait été mon agent, qui était rendu directeur général, c'est lui qui m'a échangé à Tampa Bay. Et moi, quand je suis arrivé à Tampa Bay, j'étais tout à l'envers. Après tous ces chambardements-là, j'étais tout à l'envers. Puis j'avais pas un bon feeling. J'avais de la difficulté à m'intégrer à l'équipe. Okay. Oui, il faisait beau. Puis il y avait pas de taxes d'État. Puis c'était le dollar américain. Puis tu sais, au niveau financier, c'était bien intéressant. Là, mais Tout ça pour dire que je me suis jamais acclimaté là-bas. J'ai, après 16 matchs, j'ai été changé à Los Angeles. Une autre place qui a beaucoup de neige, là.
Oui.
Fait que, puis ça, en bout de ligne, ça a été une belle période, mais cette année-là, ça a été la pire année. Puis il ne faut pas oublier, à la fin de cette année-là, j'ai vu l'Avalanche élever à la Coupe Stanley. Là, mon équipe pendant 10 ans, l'année que moi je m'en vais, remporte la Coupe Stanley, ça a été très, très tough. Là. Sérieux, je broyais comme un bébé. Là.
Ben, tes chums avec qui t'as évolué pendant des années, qui ont enfin la Coupe Stanley dans les mains. Hey, vous avez mangé votre beurre noir en sacrifice pendant des années pour en arriver là.
De voir Patrick Roy puis Claude Lemieux se promener avec la Coupe Stanley avec mon équipe. Quand ça avait été des adversaires que j'avais haïs pendant 10 ans. Puis honnêtement, ils ont joué un rôle important dans la conquête. Là, je leur enlève pas ça. Ils ont joué un rôle très important dans la conquête, mais ça a été une année d'enfer. Puis tu sais, j'ai comme un flash. Là, Joe Sakic, c'est un gars que j'adore. J'ai joué avec lui pendant 8 ans. Puis dire aux gens à quel point Joe a de la classe. Le lendemain qu'ils ont gagné la coupe, il m'a appelé. Il était encore un peu ses effets de champagne, puis il m'a appelé, puis il m'a dit « Fenner, quand j'ai touché à la Coupe Stanley, j'ai eu une pensée pour toi. Tu aurais dû être là avec nous autres. »
Wow! OK.
J'en ai des frissons. Quand je le dis, j'en ai des frissons. Là.
C'est de la grande classe.
Ah, Joe, c'est tout un gars, puis lui avec, a joué un rôle très, très important. Là, quel athlète, quel homme et quel athlète.
Ouais. Donc, quand t'es parti des Nordiques pour le Colorado, par la suite, t'as été échangé. Là, ton deuil s'est entamé, t'es arrivé à Tampa. C'est drôle hein, à quel point... Tu sais, moi, je me souviens de ce moment-là, ça a été comme il était un choc parce que jusqu'à la dernière minute, j'étais persuadé que vous alliez rester à Québec. Finalement, vous en allez au Colorado. Là, toi, de ton côté, ça va à Tampa. Après ça, Los Angeles, je me suis dit, mon Dieu, la misère humaine. Tu sais, Tampa, mais toi, tu avais ton deuil à subir. Puis en plus, les Nordiques, les nouveaux Nordiques qu'on appelait maintenant l'Avalanche, gagnaient la Coupe cette année. Tu vois, j'avais pas réalisé ça, que toi, tu avais vécu ça de ton côté.
Ah non, écoute, ça a été l'enfer. Écoute, cette année-là, là, j'ai fini l'année, j'avais de l'air d'un raisin sec. Là. Moi, j'étais un gars qui jouait à 196, 197, puis pas de gras. Là. Puis j'ai fini l'année, j'étais rendu à 187 livres. Mon épouse était rendue en bas de 100 livres. Parce qu'écoute, il faut pas oublier la famille, 3 jeunes enfants.
Ben oui.
On a fait 3 villes, 3 États différents en 4 mois. Là. Les écoles, les déménagements, tout ça, ça a été, comme athlète, honnêtement, puis ça a été très, très tough. Puis j'essaie pas de faire pleurer le monde, là, mais ça a été très, très difficile.
Steven,
malgré qu'on ait choyé de faire cette carrière-là, là, ça a été très, très, très tough au niveau humain.
Ah, on n'en doute pas. Puis tu m'as raconté la façon dont tu l'avais vécu, puis je suis pas capable de ressentir exactement ce que toi t'as ressenti, mais je me serais senti exactement dans cette situation-là, probablement. Est-ce que tu me laisses encore 2-3 minutes pour nos auditeurs?
Oui.
Parfait. On fait une très courte pause. Je rappelle que ce soir, on a le plaisir d'être en compagnie de l'athlète, ou ex-athlète, mais il a de l'air encore en shape, Stephen Finn, qui a évolué chez les Nordiques de Québec pendant plusieurs années. Finn est notre invité ce soir, un ancien joueur des Nordiques de Québec. Il a réalisé plusieurs années dans la Ligue nationale. Au total, c'est autour de 12-13 ans, c'est ça, Stephen?
Oui, 12 ans, oui.
Quand tu as décidé de d'enlever tes patins, là, est-ce que ça a été un choc pour toi ou tu t'es dit « c'est là où je suis rendu, je suis blessé, mais là, j'ai besoin de passer à autre chose » Comment ouais, ça a été ben, quoi écoute, la décision? Ouais.
Je te dirais que c'est pas juste ma décision, c'est la décision de la Ligue nationale de hockey, évidemment. T'sais, mon contrat était terminé, il n'y avait pas beaucoup d'intérêt pour mes services à travers la Ligue. Donc, j'ai réalisé que le temps était venu de prendre ma retraite après 12 saisons de hockey professionnel. Et c'est toute une adaptation, là, moi, de passer de cette vie-là que tu as joué au hockey toute ta vie. Et après ça, à 32 ans, genre, tu arrives et t'es un jeune retraité et puis tu dois figurer ce que tu fais le restant de ta vie. C'est pas évident.
Ouais. Est-ce que tu étais indépendant de fortune à 32 ans?
Non. Non, écoute, je m'arrangeais bien, mais je n'étais pas indépendant de fortune, non.
OK. Fait que là, le stress embarque à 32 ans. Qu'est-ce que je vais faire du restant de ma vie?
Écoute, tout à fait. Et puis, évidemment, il y a un train de vie qui vient avec ça parce que tu t'habitues à un certain train de vie avec les revenus. Et puis, plutôt, on m'a rappelé ma première emploi. J'ai commencé rapidement dans le domaine de la vente pour une compagnie dans le domaine de l'alimentation. Ma première emploi, c'était 60 000 de annuellement, là, tu sais. Fait que tellement que mon premier chèque, les gens de la paye m'ont appelé après un mois, ils ont dit « Steven, t'as pas déposé ton chèque encore, je pensais que c'était l'allocation familiale. » Donc, c'est toute une adaptation et puis je suis bien heureux de la façon que j'ai réussi à faire la transition.
Ouais. Est-ce que ça a été dur pour toi de je sais pas si je m'exprime bien, mais subir le regard des gens, le premier regard, attends un peu, Stephen Finn qui a évolué dans la Ligue nationale de hockey, maintenant dans le monde de l'alimentation, c'est un représentant.
J'étais représentant, j'ai beaucoup de respect pour les représentants. Aujourd'hui, j'ai une compagnie de distribution dans le pharma, puis j'ai 12 représentants et puis je les aime beaucoup, je les respecte beaucoup, mais quand j'ai commencé, j'étais Key Account Manager, qui appelle le gestionnaire de compte majeur.
OK.
Mais non, je te dirais que moi, c'était clair que je voulais me prouver à moi-même. C'est parce que notre réflexe, c'est de rester relié au monde du hockey, puis c'est bien correct pour ceux qui le font, parce que tout notre réseau de contacts est là.
Ouais.
Mais moi, je voulais me prouver à moi que j'étais capable de faire d'autres choses que du hockey, puis j'étais capable de gagner ma vie dans le monde des affaires. Fait que j'étais fier de faire cette transition-là, mais je te dirais pas que c'était facile, mais j'étais fier de le faire, là.
Tes gars, ils ont pris ça comment? Tes trois gars, quand ils ont dit, oh boy, le père prend sa retraite, il s'en va faire un autre job 40 heures semaine, ils ont pris ça comment?
Ben, mes gars étaient quand même assez jeunes, mais pour eux autres, c'était un gros changement. Là. Tu sais, papa, je veux pas, quand on joue à la Ligue nationale de hockey, papa, il ne voyait pas trop pendant la saison. Tu sais, on part beaucoup, tout ça. Fait que c'est pas une vie normale. Là, du jour au lendemain, tu te retrouves à la maison à temps plein. Fait que c'est une adaptation pour tout le monde, je te dirais. Autant pour les enfants que pour l'athlète, que pour l'épouse. Mais on a vécu ça en famille et puis ça s'est très bien passé.
Oui, mais ça devait être de l'adaptation pour toi, 365 jours à la maison.
Ouais, puis tu sais, veux pas, c'est une vie prestigieuse, là. Tu voles en vol Nolisée, tu restes dans les plus belles hôtels, des belles villes, t'es mis sur un piédestal, tu sais, c'est tout un choc au début, là.
Ouais, effectivement, effectivement. Puis après ça, ben, tu as décidé de partir ta propre entreprise, c'est ça?
Ouais, aujourd'hui, j'ai une compagnie de distribution dans le domaine pharmaceutique. On distribue une compagnie de l'Inde. Ça fait 12 ans qu'on les a comme partenaires, puis ça va très, très bien. Puis je donne des conférences également. Et puis l'année passée, un projet de cœur, j'ai été co-auteur sur un livre sur Guy Lafleur, et puis j'ai tellement aimé le projet. Donc, j'étais un gars qui aime beaucoup sortir de sa zone de confort, puis je pense que c'est ce qui nous garde vivants.
Les thématiques que tu abordes, Stephen Finn, pendant tes conférences, c'est quoi? Parce que j'ai vu que il y a beaucoup d'entreprises qui faisaient affaire avec toi, des entreprises notoires d'ailleurs. Tu abordes quoi dans ces conférences-là? Ta carrière, ta vision des choses par rapport au monde des affaires?
Ouais, ben écoute, je te dirais qu'il y a un peu tout là-dedans, puis c'est beaucoup sur le dialogue interne. D'ailleurs, le titre de ma conférence, ça peut peut-être faire granola, là, mais c'est maître de tes pensées, maître de ta vie. Puis c'est beaucoup sur le dialogue interne, la visualisation. Puis comme athlète, on sait à quel point c'est important. Puis quand j'ai fait la transition dans le monde des affaires, j'ai réalisé que c'était la même chose, tu sais. Quand tu t'en vas cogner à la porte chez un client, si tu veux avoir du succès, ben faut que tu t'attendes à avoir du succès. Puis il faut que tu aies confiance en toi, confiance en ton produit. Fait que je parle beaucoup de dialogue interne, le body language, le leadership, le travail d'équipe, évidemment, c'est très, très important. C'est majeur dans le sport, c'est majeur dans le monde des affaires. Fait que j'aborde tous ces sujets-là et puis j'ai beaucoup de plaisir à le faire, puis ça va très, très bien.
Non, c'est le fun, mais on voit que tu es encore très, très, très occupé aujourd'hui.
Oui,
Ouais.
c'est important.
On te voit-tu comme analyste une fois de temps en temps?
Écoute, cette année, j'en ai pas fait. J'ai
Ouais.
nommé tous les projets, là. Je commençais à manquer de temps un peu. Cette année,
Ah
j'ai
ouais.
pas collaboré à la télévision, mais je te dis pas que je ferme la porte ou que je tourne le dos au domaine, là.
Bon, on va se le souhaiter. Stephen Finn, ça a été un plaisir. Juste rappeler aux gens que, bon, tu l'as dit, là, tu fais des conférences. On peut te rejoindre directement sur ton site web, Stephen Finn. On a juste à taper Stephen Finn, on tombe directement sur ton site. Ou encore chez Horizon, là, tu fais partie des conférenciers
Oui.
d'Horizon. Ça a été un plaisir de discuter avec toi. Tu nous as rappelé énormément de souvenirs, puis les auditeurs ont grandement apprécié, j'en suis persuadé.
Ben, ça me fait plaisir également, puis merci, merci pour ton temps.
Nous, on se laisse là-dessus. Je vous souhaite de passer une agréable soirée sur les ondes de Boulevard 102.1 et on se reparle demain 11 h pour ce qui est de Marseille.